Papa, encore une fois ce matin, nous te demandons ta révélation. Te demandons par ton esprit que tu fasses ce que tu fais tellement bien et que tu fais avec un tel empressement. Nous donner la révélation de ta parole. Grave ces paroles dans nos cœurs aujourd'hui. Suscite en nous la soif et la faim pour en savoir plus, de telle sorte que personne, à partir d'aujourd'hui, ne pourra rester tranquille dans la semaine sans dire, je vais revoir la parole, je vais réécouter la parole, je vais méditer de nouveau ces enseignements que Dieu m'a communiqués. Père Céleste, nous te disons merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci pour la parole de Dieu que tu libères dans cette église et qui touche les nations, qui touche les gens dans le monde entier. Et nous avons le privilège de la recevoir en direct. Nous te disons merci. Merci pour passion pour Dieu. Merci pour cette émission que tu utilises pour changer des vies dans le monde. Éternel, ta parole est abondante dans cette église. Et à partir de maintenant, nous allons l'apprécier comme nous devrions. Nous n'allons plus la négliger. Nous n'allons plus porter notre attention ailleurs en ignorant ce que tu nous as donné pour transformer nos vies. Père, nous te remercions et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Faites un grand sourire à votre voisin. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits d'une culture de gratitude. D'une culture de gratitude, d'une culture de reconnaissance. En tant qu'individu, nous avons tous des cultures, n'est-ce pas? Il y a la culture du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a la culture de la reconnaissance, de la gratitude. Alléluia. Quelque chose qui vous caractérise profondément, qui est partie intégrante de votre être, qui définit votre manière de voir, de penser, de fonctionner. Glory to God. Je reviens du Qatar et là, leur culture, c'est que les hommes s'habillent en blanc et les femmes en noir, du moins à l'extérieur. Donc, vous voyez toutes ces femmes qui ont des capes noires et des foulards noirs et les hommes qui ont des robes blanches et les foulards blancs. Et des gens comme moi en détonnent parce que je n'ai pas de cape noire ni de foulard noir. Et je parlais avec une femme qui venait d'un autre pays qui dit, mais c'est notre culture, n'est-ce pas? Nous sommes, notre culture nous identifie et définit notre identité, notre manière de fonctionner. Nous devons avoir une culture de gratitude. En tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église, nous devons avoir une culture de gratitude. Non pas une culture de plainte et de médisance et de méchanceté, mais une culture de gratitude, de reconnaissance. Quels sont les bienfaits d'une culture de gratitude? Nous bénissons notre Dieu parce qu'il sait suppléer aux déficits qui pourraient exister. Et il a dû constater un déficit de gratitude pour nous lancer dans ce mois d'action de grâce. Nous bénissons Dieu parce que c'est lui le chirurgien divin et c'est lui le médecin qui sait nous diagnostiquer comme il faut. Nous essayons souvent de nous diagnostiquer, de diagnostiquer notre Église et nous échouons lamentablement. Nous diagnostiquons sur la base de nos préférences et nos irritations. Et sur la base de notre ignorance et nos stupidités. Mais Dieu diagnostique à partir de sa grande sagesse, sa sagesse infinie. Alléluia. Dieu nous a diagnostiqué et nous a donné notre remède et nous l'avons appliqué. Et après, il nous dit, mais ce n'est pas fini. Ce n'est que le début d'une culture de gratitude. Alléluia. Nous passons d'une semaine de prière. Nous avons fait une semaine d'action de grâce. Nous sommes passés à un mois d'action de grâce. Et maintenant, nous démarrons une culture d'action de grâce.
Wow.
Glory to God! Donc, c'est ce qui nous définit en tant qu'assemblée. C'est notre façon d'être. Oh, Jesus! God is so good. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, au verset 17. Ouvrez dans Éphésiens chapitre 5 au verset 17. Et je vais demander à ceux qui savent ouvrir rapidement leur Bible d'ouvrir aussi à Samuel 15 au verset 22 parce que nous allons y arriver dans quelques instants. Je vois que le temps passe et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Si je n'arrive pas à finir, je vais enregistrer le reste du message et je mettrai en ligne ou bien Edwige et moi nous mettrons en vente pour 1000 euros. Ceux qui étaient là hier ont compris. Si vous n'étiez pas là, demandez-leur après le culte quelle est la plaisanterie sur les 1000 euros. Tiens, pasteur, c'est la nouvelle saison? Non, ce n'est pas la nouvelle saison. Thank you, Jesus. Est-ce que vous êtes dans Éphésiens chapitre 5? Communiquez avec moi ce matin. J'ai fait un long voyage et j'ai encore besoin de sommeil. Dieu m'a fait grâce hier, j'étais en train de rentrer à la maison et par deux fois, je me suis endormie au volant. Et une fois assez longuement parce que je me suis réveillée, c'était profond. Et j'étais encore en train de conduire. Et je dis, Seigneur, merci, mais maintenant, garde-moi éveillée. Alléluia. Donc, je veux vous entendre ce matin, sinon je risque de m'endormir. Éphésiens 5, au verset 17, nous dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Dites-le à votre voisin, ne sois pas inconsidérés. Voilà, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Individuellement et en tant qu'Église, nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Non pas quelle est la volonté de Flo-Flo, mais quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Amen. C'est de la débauche. Alléluia. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Yes. Entretenez-vous par des psaumes, alléluia, par des hymnes, glory to God, et par des cantiques spirituels, Jésus règne, je déclare que Jésus règne. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est une église. Ça, c'est Abba House. Au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Ça, c'est une culture d'action de grâce. Nous avons vu ce passage il y a deux semaines. Nous sommes censés rendre continuellement grâce. Continuellement grâce pour toutes choses. Quelle que soit la situation, nous devons continuer à rendre grâce à Dieu. Ne faisons pas de pause, pas d'année sabbatique. On n'attend pas que tout soit impeccable. Oui, mais bon, pasteur, c'est pas que les gens ont des problèmes. Il dit, il faut se lever pour dire merci. Oui, parce qu'il faut rendre grâce continuellement pour toutes choses, en toutes circonstances. C'est votre manière de dire Dieu règne. Qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu règne. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, Lord. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça, c'est une église. Ça, c'est Abba House. En Thessaloniciens 5, 16, 18, vous dit ceci. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Y compris à 5 heures du matin. Alléluia. Où c'est marqué dans la Bible? Sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Une culture de gratitude. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire une culture d'action de grâce, de gratitude, de reconnaissance, c'est la volonté de Dieu pour Abba House? Alléluia. Et ça rapporte au gros. Ça rapporte au gros. Nous remercions Dieu parce qu'il y a de quoi. Hein? Il y a de quoi. Nous remercions Dieu parce qu'il nous demande de le faire. Nous venons de lire un passage, deux passages qui parlent d'action de grâce. Nous avons vu que plus de 400 fois dans la Bible, des expressions différentes qui nous invitent, exhortent à rendre grâce à Dieu, à le remercier. Donc, je pense qu'en étant des êtres doués d'une extrême intelligence, autant de fois, il est question de rendre grâce à Dieu, nous finissons par nous rendre compte que c'est une doctrine fondamentale des actions de grâce. N'est-ce pas? Nous, par contre, avons l'attitude, nous avons l'habitude de nous crêper les chignons sur des choses non fondamentales. N'est-ce pas? Oh, nous laissons de côté les choses fondamentales. Dites culture d'action de grâce. Culture de reconnaissance. Culture de gratitude. Alléluia. Ça, c'est Abraham. Et ça rapporte au gros. La première chose que je voudrais souligner pour vous, c'est que c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Vous allez me dire, oui, mais comment vous savez ça, pasteur? Parce que l'obéissance fait plaisir à Dieu. Parce que quand Dieu évoque quelque chose autant de fois dans sa parole, c'est que c'est important. Alléluia. Et quand nous avons des commandements si précis, des instructions si précises de rendre continuellement grâce à Dieu. Vous savez que si vous rendez continuellement grâce à Dieu, vous n'avez pas le temps de vous plaindre. De rendre continuellement grâce à Dieu, c'est que c'est un acte dont l'obéissance fait plaisir à Dieu. Dans 1 Samuel, le verset 15, je veux que vous compreniez l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 22, je vous lis le passage. Dans les deux traductions que j'ai, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices ?» Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dans la version du semeur, un peu plus facile à comprendre pour certains d'entre nous, il a dit ceci, Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices, écoutez bien, font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire ta royauté. Certains d'entre vous, vous le savez déjà, la question ici de Saül. Et de la fois où Dieu a envoyé Saül en guerre contre un roi païen. Et Saül avait des instructions précises. Est-ce que vous savez que Dieu donne des instructions précises? Il y a des instructions générales, il y a des instructions précises. Pour des moments précis. Il lui a donné des instructions précises que cette fois-ci, il ne devait rien ramener. Souvent, lorsqu'il partait en guerre, il ramenait le butin, et où il partageait, où il faisait des sacrifices à l'Éternel. Des holocaustes, etc., etc., et des sacrifices. Mais là, les instructions étaient formelles. Tu vas partir en guerre et tu ne vas rien ramener. Tu ne laisses rien en vie, personne en vie. Tu tues les animaux aussi. Tu ne ramènes rien. Et Saül est parti et il a ramené des choses, soi-disant pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc, on pourrait, si on décide de le croire que c'est pour cela, on peut dire oui, effectivement, il voulait faire quelque chose de bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. Et lorsque Samuel est venu, Samuel s'est irrité contre lui, le prophète Samuel, et à cause de sa désobéissance, il a perdu le royaume. Cela nous permet de voir à quel point l'obéissance est importante aux yeux de Dieu. Et quand Dieu réitère quelque chose constamment dans sa parole et que nous décidons d'y obéir, nous décidons de nous mettre à faire ce qu'il demande de faire, nous faisons plaisir au Seigneur. Il dit clairement ici que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est l'obéissance. Nous faisons plaisir à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire plaisir à Dieu? Moi, je veux faire plaisir à Dieu. Je veux l'honorer. Vous savez, je ne veux pas juste que Dieu me bénisse. Ça, c'est bien. Moi, je veux le bénir. Je veux l'honorer. Je veux lui faire plaisir. Je veux qu'il me regarde et dit, fais exactement ce que je lui ai demandé de faire. Waouh! Exactement ce que je lui demande de faire. Et il y a un point important qu'il faut noter dans ce passage, c'est la question de la saisonnalité. La saisonnalité des instructions de Dieu. Il y a des fois où dans une saison précise, Dieu va donner des instructions. Il faut faire des choses de telle manière et de telle manière. C'est un peu comme ce que nous venons de vivre en mois d'action de grâce. C'était des instructions saisonnières. Maintenant, nous allons entrer dans l'obéissance de manière générale. C'est-à-dire, les actions de grâce doivent être incorporées dans nos vies, devenir une culture d'action de grâce. N'est-ce pas? Et c'est là où souvent les gens se trompent dans la saisonnalité, le fait de savoir écouter les instructions que Dieu donne à un moment précis. et de savoir les suivre. Nous avons vu la dernière fois que lorsque Dieu donne une instruction précise, ce n'est pas pour vous donner un fardeau de plus, une tâche de plus, une charge de plus. C'est une clé pour votre percée. Et quand Dieu donne des instructions à Saül, Saül, en tant que responsable, en tant que roi, est censé faire quelque chose qui engage en fait tout le peuple. N'est-ce pas? Ce n'était pas juste que Saül, lui, ne devait pas ramener quelque chose, c'est que le peuple tout entier ne devait pas ramener quelque chose. Et la désobéissance du leader a amené le peuple dans la désobéissance. Alléluia. Mais la chose qui est intéressante ici, c'est que ça, c'est une instruction qui est précise parce qu'elle détonne par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Et c'est là où nous devons faire très attention dans l'obéissance et comprendre que les choses que Dieu nous demande de faire ne sont pas déterminées uniquement par ce que nous éprouvons comme besoin personnel. Dieu a un plan éternel. Et il nous insère dans son plan éternel. Et lorsque nous donnons nos vies à Dieu, Dieu maintenant prend nos vies et les insère dans ce plan et s'en sert pour l'accomplissement de ses plans. Et il y a des fois où Dieu va demander que vous fassiez quelque chose qui ne correspond en rien à un besoin que vous ressentez. Et parce que les chrétiens ont cette idée parfois comme quoi Dieu existe uniquement pour eux, finissent par juger tout sur la base de leur ressenti. Leur idée, ce que eux pensent avoir besoin. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas uniquement limitée à ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous me suivez? Le plan de Dieu n'est pas limité à vos idées, vos besoins, là où vous êtes personnellement. C'est une vision très réductrice du royaume de Dieu. Que de toujours ramener les instructions de Dieu à ma vie. Est-ce que vous me suivez? C'est réducteur et ça vous amène en dehors de la volonté de Dieu. Et même que de ramener à ce que j'ai l'habitude de faire. Lorsque Jésus était sur terre, les gens étaient un peu irrités parce que ses disciples ne jeûnaient pas comme les autres. Et Jésus a dit, non, le maître est encore là. Quand je partirai, ils vont jeûner. Mais ce n'est pas la saison pour eux de jeûner. Lorsque nous avons fait ce... Et c'est frappant, n'est-ce pas? Parce que la première semaine après que nous ayons commencé ce temps, cette saison d'action de grâce, le samedi, j'ai demandé des témoignages de personnes qui avaient commencé l'action de grâce. Et j'ai eu un témoignage de la Lituanienne ici présente, mais qui ne correspondait en rien à cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait ajouté ses idées et ses besoins du moment à la saison que Dieu nous avait donnée en tant qu'Église. N'est-ce pas? Et elle s'est lancée dans un jeûne d'une semaine pour chercher la volonté de Dieu sur quelque chose. Et par conséquent, n'est pas vraiment entrée pleinement dans ce que le Seigneur voulait faire dans cette saison. C'est un peu comme Saül qui dit, je vais ramener le butin pour faire des offrandes au Seigneur. Oh, Dieu n'a pas demandé de ramener le butin dans cette saison. Il a dit, cette saison-ci, pas de butin. Est-ce que vous me suivez? Ce point est fondamental pour nous dans nos vies de chrétiens. Que nous comprenions qu'il y a une direction de Dieu pour notre assemblée, nous entrons tous dedans. Quel que soit ce que moi je ressens pour l'instant comme mes besoins. Parce que ces directions de Dieu, ces instructions de Dieu, ce sont la clé que Dieu va utiliser non seulement pour notre église, mais pour chacun de nous. Et avec cette clé, il va ouvrir les portes d'un travail pour quelqu'un. Avec cette clé, il va ouvrir la porte de la joie pour quelqu'un. Avec cette clé, il va ouvrir les portes d'autres choses pour quelqu'un. Des besoins divers et variés, mais la même clé, issue de l'obéissance. Parce que la seule chose qui compte, c'est de faire plaisir à Dieu. Quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait en sorte que tous ses ennemis soient en paix avec lui. Et souvent, nous passons à côté parce que chacun a ses idées de... Oui, moi je sens que le Seigneur me conduit plutôt... Non! Et à la fin, toujours frustré. À la fin, toujours pas de changement. Parce qu'à la fin de cette semaine-là, elle n'était pas plus édifiée. Elle était dans ses... Ah, je sentais que... Non, stop! Je ne veux pas entendre ce témoignage-là. Parce que ça ne correspond pas du tout à la saison dans laquelle nous sommes. Et que ce qu'elle aurait dû recevoir cette première semaine-là, elle ne l'a pas reçu parce qu'elle n'a pas suivi les instructions de Dieu pour la saison. Mais après, elle s'est rattrapée. Glory to God! Glory to God! Ne pensez jamais que vos besoins soient supérieurs à la parole que Dieu a donnée. C'est très important de le saisir. Et c'est une des choses qui cause tellement de frustration dans nos églises, parce que Dieu n'est pas obligé de vous écouter. Quand il dit, ne ramenez pas de butin, et vous allez ramener des butins parce qu'il faut que j'offre des sacrifices à l'Éternel. Moi, j'ai besoin d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Vous offrez vos sacrifices, vous ramenez, ça ne fait pas plaisir. Est-ce que vous me suivez? C'est fondamental. C'est fondamental. Dieu a un plan. Et son plan n'est pas limité à ce que vous pensez. Dieu avait un plan. Quand il a dit à Abraham que ses descendants allaient être envoyés, allaient vivre en Égypte, qu'ils seraient en esclavage pendant 400 ans, il a dit à Abraham, vous savez quand ils sont allés en Égypte? Avec Jacob, le petit-fils d'Abraham. C'est là où ils sont allés en Égypte. Et ils y sont restés 400 ans avant d'être sortis d'Égypte. Dieu a un plan éternel. Est-ce que vous me suivez? Et au moment opportun, il a fait lever un dénommé Moïse. Et en dénommant Moïse, lui pensait pouvoir faire. Et il s'est lancé à tuer les Égyptiens. Au moment, il en a tué un avant d'être arrêté. Et il a pris conscience du fait que non, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Et après avoir galéré pendant 40 ans, au bon moment, Dieu a dit, maintenant viens. Les saisonnalités de Dieu. Des instructions saisonnières. Et savoir les suivre, parce que c'est là où est la clé. C'est là où est la percée. C'est là où est la solution. Dieu voit chacun de vous. Il savait que la Lituanienne ici présente avait des choses qu'elle voulait voir avec lui. Or, il a donné d'autres instructions. Et c'est au moment où elle est entrée dans son flot que même ce qu'elle voulait voir avec lui, tout a été. Est-ce que vous me suivez? Saisissez cela, c'est important. Et dans cette obéissance, il y a l'obéissance donc générale, il y a l'obéissance saisonnière. Et pourquoi nous savons que Dieu est content? Parce que Dieu aime l'obéissance. Et qu'il nous a dit, passez ce mois à me dire merci, nous l'avons fait. Glory to God. Glory to God. Et il y a des résistances qui tombent dans nos vies. Parce que sans effort, quand nous savons aller dans le sens où Dieu nous conduit. Non, mais moi, j'ai plutôt ça. Non, ton plutôt, ça va rester, ça va continuer. Est-ce que vous comprenez? Oh, Jesus! God is so good. La deuxième chose, et c'est là où nous allons passer un peu de temps ce matin, les bienfaits d'une culture de gratitude, c'est que nous-mêmes, nous en sommes transformés. Si nous comprenions réellement les bienfaits d'un cœur reconnaissant, nous serions matin, midi, soir, nous dire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux de pouvoir dire merci à Dieu. Vous allez témoigner pour beaucoup d'entre vous, j'espère pour tous, que lorsque vous vous mettez à remercier Dieu, à lui offrir des actions de grâce, il se produit quelque chose dans votre cœur. Et que l'amour que vous avez pour Dieu grandit. C'est comme... Ouf! Ça enfle. Vous êtes... Ouf! Et au fur et à mesure que vous prenez conscience de sa bonté, votre amour pour lui grandit. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de sa bonté, nous devenons des adorateurs. Et de vrais adorateurs, pas des gens à qui disent, maintenant chante ça. Chante-le deux fois. Non, trois fois, quatre fois. Et nous devenons de vrais adorateurs parce que nous contemplons sa bonté et nos cœurs sautent de joie. Sautent de reconnaissance. Et nous passons des actions de grâce. Il n'y a pas de frontière. On est en train de dire merci, merci, je t'adore. Tu es merveilleux. C'est que nous devenons de vrais adorateurs. Pas des adorateurs réticents, comme beaucoup dans nos églises. La louange, wow! Personne qui conduit la louange doit s'armer de patience et de courage. Parce qu'il leur faut 20 minutes pour enfin commencer à chanter. Lorsque nous avons une culture de gratitude, nous arrivons à l'église déjà en train de dire merci. déjà en train de dire, oh, je t'adore, Seigneur. Nous venons avec empressement. Nous avons hâte que ça commence. Ça, c'est la vie normale du chrétien. C'est pour ça que dans les psaumes, il nous a dit quoi? Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la joie pour venir à l'église. Oh, si je ne vais pas, Béa va appeler. Si je ne vais pas, pasteur va dire où est-ce que je suis. Ça, c'est des gens qui sont ingrats. Si c'est votre cas, reconnaissez-le, vous êtes ingrats. Mais on en guérit. Dieu nous a soignés ce mois-ci, n'est-ce pas? Il nous a soignés. J'ai pris conscience de ma profonde ingratitude. Je me suis laissé soigner. Dès lors où les choses de Dieu deviennent une corvée, vous n'avez pas un cœur qui, wow, pour les choses de Dieu, c'est que vous êtes devenu ingrat. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Diagnostiquez-vous et appliquez votre remède vite. Commençons à le remercier. Nous devenons des adorateurs et nous devenons un peuple d'adorateurs. C'est beau une église qui adore Dieu. Pas une église qui chante. Pas une église qui a une super chorale, un super groupe de louanges. L'adoration, ce n'est pas lorsque nous avons des gens qui arrivent à nous motiver et après on est tous là, ils se baignent, ils s'agrandent. Non, non, non. L'adoration, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. Est-ce que vous pouvez, comme ça, spontanément vous lever, je t'adore, I love you Lord, et commencer à l'adorer et vous dans sa présence. Les actions de grâce nous révèlent la bonté de Dieu. Et au fur et à mesure, parce que Dieu veut que nous voyions à quel point il est bon, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure que l'on le remercie pour ce que l'on sait déjà, il commence à nous montrer. Et là, notre cœur commence à chanter. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant de Kirk Franklin. And when the song is over, we've all said amen. But your heart just keeps on singing. And the song will never end. And if somebody asks you, was it just a show? Lift your hands and be a witness and tell the whole world no. Quand le chant est fini, votre cœur continue à chanter. Dites à voisin, est-ce que ton cœur chante? Est-ce que ton cœur chante? C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec David. Les actions de grâce sont un peu comme le détonateur de la louange et de l'adoration. Dès qu'on commence à remercier Dieu, et que, wow, Dieu, worship. Vous dormez, vous l'adorez. Vous vous réveillez en lui disant, tu es merveilleux, Seigneur. Vous entendez lui dire, tu es merveilleux, Seigneur. Ça, c'est la vie normale du chrétien. Et c'est ce qui se passe quand il y a une culture d'action de grâce. Quand David revenait en dansant devant Dieu, en célébrant Dieu, et sa femme l'a méprisé. Nous avons des gens comme ça dans nos églises. Ils n'ont pas de feu et ils tuent le feu des autres. Ils dansaient avec abandon. Le roi, qui vous a couronné, vous, pour que vous soyez là? Alléluia. Amen. J'ai eu des gens me regarder de travers parce que je sautais dans la présence de Dieu. Je me regardais si tu savais. Alléluia. Et quand on a organisé notre première conférence, j'étais contente. J'ai dit, si je peux danser comme je veux. Je peux louer Jésus comme je veux, c'est ma conférence. Personne ne peut m'empêcher de louer mon Seigneur. Ah, c'est ma conférence. On va te louer Seigneur dans tous les sens. Adoration comme tu veux Seigneur. Tous les gens qui pensaient qu'elle en fait trop, c'est ma conférence. Ça vous arrange pas? Sortez. Eh oui, j'étais contente le premier paraclet. Ah, enfin, on va pouvoir se laisser aller dans la présence de Dieu. Ah. Tous ces coupeurs de l'eau. Et on a fait, ma fille. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Tous ces coupeurs de zèle, tous ces coupeurs d'adoration. Et investi d'une royauté charnelle. David, qui lui était roi, était là, dansait, il dansait. Oups, devant le Seigneur. Pas de coupé décalé, mais. Et sa femme l'a méprisé. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a rendu stérile cette femme. Combien de gens sont stériles dans nos églises, ne portent pas de fruits parce qu'ils ne savent pas adorer Dieu et méprisent ceux qui savent faire. Il y a même des gens qui vous regardent avec une supériorité. Tu aimes le Seigneur, hein? Et toi, tu aimes le diable. Ah, ne laissez personne vous voler votre louange. Si les gens n'ont pas assez de sagesse, assez d'intelligence pour se laisser aller dans la présence de Dieu, c'est que leur opinion n'a aucune valeur. Aucune valeur, mais aucune valeur. Mais même arrivé quand on me regarde au travail dans une réunion pastorale, parce que je suis en train de me réjouir dans la présence de Dieu, ah, mon frère, si tu es serviteur de Dieu et que tu ne le trouves pas digne de louange, vraiment, je ne peux pas t'aider. Et mon frère, l'évangéliste Jean, m'a dit après, dit, ah, tu sais, à cette réunion-là, il y a un serviteur qui te regardait. Moi, je dis, laisse ma soeur. Laisse ma soeur. Je dis, hey, j'ai vu. Penses-tu que moi, j'étais là pour lui? Non, je suis là pour Jésus. Il mérite la louange et l'honneur. Et quand on le remercie, on ne peut que l'adorer. Oh! Et vous imaginez une église d'adorateurs où nous sommes tous là en remerciant Jésus toute la semaine et quand on se réunit, ouh! Des étincelles et la présence de Dieu. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici. Bah, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alors... Autre, donc, il y a aussi un point qui est très important. J'ai un point, 14 points à vous donner. Je suis sur le point 2. Le point 2, c'est que quand on remercie le Seigneur, il change complètement notre perspective. Complètement. Je vous assure, moi, ma perspective a été révolutionnée pendant ce mois-ci. Oh, complètement. Complètement. Il change votre perspective. Parce qu'il répond, ce n'est pas en monologue. Les actions de grâce n'est pas en monologue. Tu vois, c'est un peu comme quand je regarde et que je regarde les sourcils et les cheveux et les yeux de Flo-Flo ici présent et qu'elle se retourne, tu dis, ben, tu as vu le badge derrière? Dieu fait ça avec nous. Quand on dit, Seigneur, merci pour ça et pour ça, il me dit, mais est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Tu te souviens de ça et tu te souviens de ça. Il nous rappelle. Fait trois choses. D'abord, il nous rappelle. En changeant notre perspective, il nous rappelle les choses qu'on a oubliées. N'est-ce pas? Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous révèle ce dont nous n'étions pas conscients. Et il nous révèle au point où même les choses dont on était conscient, mais dont on ne connaissait pas la valeur, il nous montre la valeur de la chose. Combien de fois vous vous étiez irrité contre quelqu'un parce que vous êtes donné beaucoup de mal pour le faire quelque chose pour eux. La personne, ah, merci, c'est gentil. Oh, comme ça, c'est tout. Et vous partez. Tu sais, je l'ai fait. Tout ce qu'il a fait, c'est merci, c'est gentil. Et parfois, nous sommes comme ça avec Dieu. Ah, Seigneur, merci. Et c'est fini. Alors que si nous savions la vraie valeur de ce qu'il a fait pour nous, nous serions là, mais Seigneur, merci. Oh, merci. Ah, Seigneur, merci. Et il nous montre la valeur, il nous révèle la valeur de ce qu'il fait pour nous. Et il nous permet de nous refocaliser. Notre perspective change. Nous prenons conscience. Parce que, vous savez ce qui se passe quand vous oubliez? C'est que vous revenez à la case départ. Comme si ce n'était jamais rien passé de bon. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que les gens peuvent se tenir ici aujourd'hui et témoigner sincèrement de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et vous entendez le mois prochain qu'ils sont rétrogrades. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Et maintenant, ils traitent Dieu comme s'ils n'avaient jamais rien fait pour eux. Parce que alors, non, là, il y a un problème, hein, en vrai. Oui, mais ce Seigneur, oui, mais là, vraiment, non. Quand vous êtes rempli d'actions de grâce, vous n'oubliez pas. C'est nouveau, c'est renouvelé constamment, constamment. Et l'émerveillement concernant la bonté de Dieu est renouvelé constamment. Et qu'est-ce qui se passe quand cela arrive? Votre perspective change. Vous n'êtes plus focalisé sur vos problèmes. Vous êtes focalisé sur sa bonté. Et vos problèmes diminuent et sa bonté grandit. Amen. Et votre vision est remplie de la bonté, de la fidélité de Dieu. Et cela vous conduit au troisième point, c'est la foi. La foi. En fait, la foi, c'est le quatrième point. Le troisième point, c'est la conscience de sa grâce. Vous vivez dans la conscience de sa grâce. Je vous ai dit, je pense que c'était la deuxième semaine. J'étais là, j'ai dit, je sais une chose. Je vous dis une chose, c'est que Dieu m'aime. Je vous l'ai dit ici. Je ne plaisantais pas. C'est vrai. Il m'aime. Mais parfois, nous en sommes moins conscients que par d'autres moments. Mais les actions de grâce où Dieu nous révèle, il nous rappelle, il nous permet de nous refocaliser, nous permet d'en être pleinement conscients. Et nous vivons dans la conscience de sa grâce. Il y a des gens qui vivent dans la conscience de la peur, la conscience du désastre, la conscience de la catastrophe. Quel que soit ce que vous leur dites, ils voient déjà la catastrophe. Vous leur dites, bon, je ne pourrais pas te donner l'argent. Oui, je savais que ça allait mal se passer, je ne vais pas avoir l'argent. Vous leur dites, je vais te donner l'argent, mais je suis sûr que je vais le perdre. Ou on va me le voler, ou quelque chose va se passer, je vais me retrouver à la case départ. Ils vivent dans la conscience de la catastrophe. N'est-ce pas? Mais nous vivons dans la conscience de la grâce. Nous sommes tellement, nous sommes environnés, nous sommes saturés, remplis de la conscience de tout ce que Dieu a fait, rien que pour nous. Just for me, Lord. De la valeur que j'ai à ses yeux, de la valeur de ce qu'il a fait pour moi que je méprisais avant. Maintenant, je vois la valeur de la chose et je prends conscience de mes décisions. Je suis environnée de grâce, submergée de grâce. Alléluia, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie. Oh, Shekai, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Vous savez, c'est un peu l'histoire de David. Et c'est là où il est question de la foi. Parce que la conscience de ce qu'il a fait, du fait que je suis environné de sa grâce, me permet de marcher dans la foi. Et c'est un peu comme David qui a dit, mais attendez, attendez. Je ne suis pas fou, je paraphrase. Si je dis que je vais m'attaquer à ce géant, ce n'est pas parce que je suis inconscient. Ce n'est pas parce que je suis fou. C'est qu'il y a une histoire entre Dieu et moi. Il s'est occupé de moi par le passé. Il m'a permis de vaincre l'ours. Il m'a permis de vaincre le lion. Le même va me permettre de terrasser ce géant. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous avons la conscience des œuvres grandes que Dieu a déjà accomplies pour nous. Donc, quand les prochains défis viennent, on regarde, j'ai terrassé l'ours, j'ai terrassé le lion, mais je vais te couper la tête. C'est ce qu'il a dit à Goliath. Je vais te couper la tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce que je vais faire. Nous savons ce que nous allons faire. Nous allons lui couper la tête. C'est tout, c'est pas compliqué. Vous pensez que c'est compliqué? Pas du tout. Et cela détruit, anéantit le découragement. Complètement. Anéantit le découragement. Parce que chaque situation se présente comme étant invincible. N'est-ce pas? Et si nous avons oublié ce qui s'était présenté par le passé, nous cédons vite au découragement. Et l'esprit va venir, mais tu vois, il y a ça. Comment tu vas faire? Il y a ça. Comment tu vas faire? Il y a ça. Je dis, écoute, tais-toi. C'est comme ça que tu m'avais dit la dernière fois, non? Mais mon Dieu, il m'a sorti de là. Il m'a tiré d'affaire. Et je l'en remercie constamment. Donc, je n'ai pas oublié. Maintenant, dégage! Hey! Faith! La gratitude bâtit la foi, fait disparaître le découragement. Nous avons lu ce passage dans le psaume 103 où il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hein? » Aucun de ses bienfaits. Et il énumère les bienfaits. N'oublie pas qui t'a sauvé, n'oublie pas qui t'a guéri, n'oublie pas. Maintenant, quand le médecin te dit « Ouais, là, toi... » Tu as des migraines, il n'y a pas de solution. Oui, mais mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, il y a 2 ans, on m'avait dit que j'avais ceci, mais il m'a guéri. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Je n'ai pas oublié parce que je n'ai pas arrêté de l'en remercier. Donc, ma foi est forte. je m'attends à plus encore.
Amen.
Et en tant qu'assemblée, nous ne pouvons pas cesser de le remercier pour ce que nous avons vu comme guérison, pour ce que nous avons vu comme délivrance, pour ce que nous avons vu, n'est-ce pas, comme salut. Nous ne pouvons pas cesser de le remercier. Donc, s'il a guéri, il guérira encore.
Amen.
Alléluia. Et nous avons la foi. Nous sommes une assemblée remplie de foi. La culture de gratitude fait de nous une église remplie de foi. Où nous nous attendons à la puissance de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un me dit, oh, j'ai tel problème. Je dis, oui, mais bon, Dieu. Dieu. Parce que nous n'avons pas oublié. On m'a dit, mais tu te souviens d'une guérison qu'on a eue? Oh, oh, il faut voir qui a été guéri ici. Aïe, zout. Il y a quelqu'un qui a... Aïe, aïe, aïe. T'as été guéri? Ah, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais quand nous le remercions constamment. Avant même qu'on nous demande, oui, il y a un tel qui a été guéri, un tel qui a... Oui, mais j'ai été guéri ça. Ouais, ouais, écoute, tu as vu, tous ces gens ont été guéris, pourquoi toi, tu ne seras pas guéri? Alléluia! Un peuple d'adorateurs, un peuple qui voit la puissance de Dieu se manifester. Une culture de gratitude nous amène à terrasser des géants, nous amène à marcher dans la foi, nous amène à voir la puissance de Dieu au milieu de nous, parce que nous sommes confiants de ce que Dieu va faire, ce qu'il a déjà fait. Il ne va pas changer d'avis. Il a guéri, il guérira encore. Il a béni, il bénira encore. Il a sauvé, il sauvera encore. Et quand on a des choses que Dieu nous met à cœur de faire, on va faire, oui, mais est-ce que vraiment les gens vont être sauvés? On a l'a déjà vu sauver, pourquoi ils ne vont pas sauver? Alléluia. Et on va prendre des choses plus grandes, et plus grandes, et plus grandes, et on va s'y attendre. On va s'attendre à ce que Dieu agisse, que sa puissance se manifeste, qu'il agisse à travers moi. Et où que je sois, quand je suis dans la rue, où que je sois, je dois prier pour quelqu'un. Je n'ai pas oublié la dernière fois que j'ai prié pour quelqu'un dans le couloir de l'entreprise, et la personne a été guérie. Je n'ai pas oublié, comme je vous donnais le témoignage encore hier, quand j'ai prié pour quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à dormir, qui n'était même pas converti, dès que je lui priais pour la personne, moi j'avais oublié, sauf que là, j'ai revu la personne, il m'a dit, depuis que tu as prié pour moi, maintenant je dors. Et si je décide de remercier constamment Dieu et de ne pas oublier ces choses, où que je sois, je vais toujours être disposée à prier pour quelqu'un pour que la puissance de Dieu se manifeste. Et si en tant qu'Église, nous avons cette culture d'action de grâce, n'oublions jamais, nous partageons constamment les témoignages de ce que Dieu fait, nous serons une Église remplie de foi. Ou qui que ce soit, membre de la Baras, même qui ne l'a jamais fait, est face à quelqu'un qui a besoin de prière. Oui, mais Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et quand elle a témoigné de ça et de ça, mais oui, bien sûr, moi aussi je vais prier pour lui. Alléluia. Dites une culture de gratitude.
Une culture de gratitude.
Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe quand on a une culture de gratitude, c'est que cela nous protège de la rébellion, de l'orgueil, du péché et du compromis. Comment? Oui. Parce que nous faisons face à des situations dans la vie qui vont essayer de nous attirer dans le péché, dans le compromis. Regardez avec moi dans le psaume 106. Il y a des choses très intéressantes dans ce passage que nous devrions voir. Les choses qui ont été écrites, il nous a dit dans la parole de Dieu, ont été écrites pour nous servir d'exemple. N'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire si quelqu'un a mis son pied dans le feu et qu'il a dit, ah, en fait, c'est en feu et ça brûle. Il n'est pas nécessaire que nous allions aussi tester, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien. Il faut les éviter. Malheureusement, il y a des gens qui disent, oui, mais tu comprends, moi, je... Tiens mon numéro, appelle-moi quand ça brûle. Le psaume 106 est un psaume très intéressant. Et commence en louant l'Éternel, en déclarant la miséricorde de Dieu, en déclarant les hauts faits de Dieu. Qui publiera toute sa louange, verset 2. Il déclare heureux ceux qui observent sa loi. Maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant ici, c'est qu'il nous ramène au passé. Au verset 6, est-ce que vous y êtes? Il dit, nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Donc voilà des gens qui n'ont pas appris la leçon des erreurs de leur père. Et à Baras, nous allons apprendre la leçon. Maintenant, il nous dit ce qui s'est passé avec ces gens. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. En d'autres termes, ils n'avaient pas une culture de gratitude. Ils n'ont pas été attentifs à ces miracles. Est-ce que ça nous arrive de ne pas être attentifs? en tant que peuple, que Dieu fasse des choses fortes et puissantes au milieu de nous, mais on n'est pas attentif. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas vu, ils étaient tous là, ils ont vu ce qui s'est passé. Hein? Ils n'étaient pas dans un profond sommeil. Ils ont bien vu avec leurs yeux. Et nous aussi, parfois, nous sommes à l'église, nous voyons Dieu agir, nous voyons Dieu guérir des gens, Dieu sauver, mais nous ne sommes pas attentifs parce que nous n'en tirons pas les leçons qu'il faut. Nous regardons, non, c'est bien, il a été guéri, sans plus. Nous n'en tirons pas les conséquences que nous devrions en tirer, de par notre attitude, notre manière de penser, notre manière de faire. Il dit ici, ils n'ont pas été attentifs à tes miracles, ils ne se rappellent pas la multitude de tes grâces. Qu'est-ce que nous avons dit? Que quand nous sommes reconnaissants, Dieu nous rappelle. Il nous rappelle. Mais ça commence avec nous qui commençons à dire merci Seigneur. Ça nous permet de ne pas oublier. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous oublions si vite, et beaucoup de nos difficultés par la suite sont dues à notre oubli. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. S'il vous plaît, prophétisez sur votre voisin que cela ne sera jamais dit de toi. Amen. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Ils ont été rebelles envers Dieu. Parce qu'ils ont oublié tout ce que Dieu a fait en Égypte. Ils ont vite oublié. Dès qu'ils étaient confrontés à notre problème, Dieu devait prouver encore sa valeur. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Donc, il décrit comment il les a sauvés à la mer Rouge. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Comment ils ont traversé, leurs adversaires ont été couverts d'eau. Et quand on voit ça, il dit, waouh! Ah, ces gens-là, non, franchement, ils doivent être consacrés à Dieu pour toujours, là. Est-ce que ce n'est pas un peu notre histoire lorsque Dieu fait une délivrance, il donne une parole puissante comme l'a donné à Flo-Flo ce matin? Wow! Jesus! Et nous sommes touchés profondément. Mais nous devons être attentifs. Nous ne devons pas oublier. Nous devons être attentifs. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne sont pas attentifs? Ils deviennent rebelles. Prochaine circonstance, ils sont rebelles. Dieu les a sauvés, donc il a délivré quelque chose d'extraordinaire. On s'est dit, ben, c'est bon, là c'est fini, ils ont appris leur leçon, là ils vont être reconnaissants. Écoutez, il dit ceci, au verset 11, les eaux couvrirent leurs adversaires, n'en restaient pas en seul. C'est quand même une délivrance extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu une délivrance extraordinaire ici? Moi, j'ai vécu des délivrances extraordinaires. Ah oui. Et ils crurent à ces paroles. En général, au moment où les gens reçoivent quelque chose comme ça, waouh, ils croient. Là, ils témoignent, ils parlent, ils disent, ah Seigneur, oh, je te servirai toute ma vie. Ouh, consécration. Ils crurent à ces paroles, ils chantèrent ces louanges. Maintenant, au verset 13, ils disent aussi, mais ils oublièrent bientôt. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Ils ont tenté Dieu. Vous savez pourquoi ils ont tenté Dieu? Parce qu'ils ont oublié. Ils n'ont pas continué à le remercier. Or, quand ils sont sortis de l'autre côté de la mer Rouge, ils ont eu un chant extraordinaire, un chant prophétique de Déborah. Vous connaissez ce chant, mais c'est extraordinaire. C'est ce chant qui est utilisé pour le chant que j'aime beaucoup en espagnol. Là. Echo a la mar, quien l'espèce guian, rineti caballo, echo a la mar, echo a la mar, los carros de Pharaon. Oh! Ta la 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 la. En d'autres termes, il a jeté à la mer ceux qui les persécutaient, ceux qui les poursuivaient. Chevalier, cheval, il a jeté à la mer. Ah. Echo a la mar, los carros de Pharaon. Hey! Ta-da-da-ta-ta! Hey! La-la-la-la-la! Et si vous voyez les églises espagnoles chanter ce chant, ouh, c'est la liesse populaire. C'est la liesse populaire, surtout les églises américaines. Echo a la mar, los carros de Pharaon. Hey! Ta-da-da! Oh, et nous sommes comme ça! La délivrance, hey! Hey! Mais ils ont vite vous n'allez pas oublier.
Amen.
Nous n'allons plus jamais oublier. Nous allons avoir une culture d'action de grâce. Nous n'allons plus jamais oublier. Nous allons le remercier tous les jours, individuellement et en tant qu'Église. Nous allons le remercier constamment. Parce qu'ils ne l'ont pas remercié, très vite ils ont commencé à se rebeller. Très vite ils ont commencé à le tenter. Très vite ils sont tombés dans le péché. Et si vous lisez ce psaume, c'est terrible. Ils sont vraiment tombés bas. La rébellion, le péché, la perversion. Au verset 21, il dit ceci, ils oublièrent Dieu. Ben, l'idolâtrie. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Nous n'allons pas oublier. Dites, nous n'allons pas oublier.
Nous n'allons pas oublier.
Nous n'allons pas oublier. Nous n'allons pas. Et un homme qui n'a pas oublié la bonté de Dieu, c'est Joseph. C'est ce qu'il a préservé du péché. Il était conscient de la bonté de Dieu. En culture de reconnaissance, nous sommes conscients de la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes reconnaissants? Nous avons beaucoup de joie. Nous avons beaucoup de joie. Nous avons beaucoup de paix. Parce que toutes ces choses, cette conscience de la bonté de Dieu, cette conscience de la grâce de Dieu, cette foi extraordinaire, tout cela vient avec la joie. Parce que vous êtes reconnaissant à cause du bien qu'il vous a fait. Et quand vous continuez à le remercier, vous continuez à vous remémorer ce qu'il a fait, votre cœur est rempli de joie. Il n'y a pas de place pour la dépression. Pourquoi vous serez déprimé? Vous êtes béni. Je suis béni. Je suis béni. Chaque jour de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et quand je me couche la nuit, je suis béni. Je suis béni. Philippiens 4, verset 6 nous dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Wow! Ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, il y aura de quoi s'inquiéter, mais refusez l'invitation à l'inquiétude. Quand l'inquiétude vient frapper à la porte, dites, tu n'as pas de client ici. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, toute chose, toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pas bon, j'ai demandé en attendant. Mais remercie le Seigneur. Oui, mais j'ai rien encore vu. Oui, mais remercie le Seigneur. Oui, mais oui, je sais, mais j'attends. Je dis, j'ai prié, j'ai jeûné, j'attends. J'attends. Non, je remercie Dieu. Parce que je sais qu'il m'a entendu, il m'a exaucé, et je refuse de devenir client du diable. Niette. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand vous êtes rempli d'actions de grâce, non seulement vous avez la joie, vous avez la paix. Vous avez la paix. Au milieu des tourments, vous avez la paix. Au milieu des difficultés, vous avez la paix. Au milieu des problèmes, vous avez la paix. Et vous avez la joie. Et s'il y a des gens qui essaient de vous tourmenter, ils sont terrifiés par votre joie et votre paix. Parce que vous comprenez, ils ne peuvent pas être heureux ni satisfaits tant qu'ils ne vous voient pas tourmentés. Il ne faut pas faire plaisir à des gens comme ça. Il faut qu'ils voient qu'en dépit de tout ce que vous êtes là. Bonjour, alléluia. Ça va? Oh, super bien. Jésus est bon. Sorry. La joie, la paix. La joie, la paix. La justice, la paix. La joie. Dans le Saint-Esprit. C'est cela le royaume de Dieu. Quand vous vivez une vie d'action de grâce, vous aurez beaucoup de joie. Dieu lui-même va constamment vous chatouiller. Parce qu'il sait que vous appréciez ce qu'il fait. Il va vous montrer. Même des choses qui ne vous regardent pas. Il va vous montrer des choses qu'il a faites pour quelqu'un. Dites-moi, j'ai fait ça pour lui. Waouh, Seigneur, tu es trop fort. Il va vous montrer des choses qui concernent l'univers, qui concernent la planète, qui concernent son action millénaire et éternelle. Il va partager avec vous. Parce qu'il sait que vous appréciez. Il va vous montrer son plan. Il va vous montrer ce qu'il fait sur la terre. Et vous allez être là, waouh, Seigneur, mais c'est trop fort. Mais, ah, tu es trop bien. Parce qu'il sait que vous appréciez. Une culture de gratitude, d'action de grâce. Faites de vous un ami de Dieu. Tout le monde veut être apprécié, même Dieu veut être apprécié. Si vous êtes tout le temps à vous plaindre, oui, Seigneur, j'ai pas ça, j'ai pas ça, je... Votre amitié ne lui est d'aucune valeur. Dieu veut nous montrer son œuvre, nous montrer sa grandeur, nous montrer sa puissance. Il va vous montrer sa puissance dans la nature. Alors que normalement, vous passez, vous ne voyez rien. Je travaille. Un jour, vous êtes, regarde. Regarde, et vous êtes là. Oh, c'est trop beau, Seigneur. Oh, oh Lord my God. When I in awesome wonder consider all the works thy hands has made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Et quel est le résultat? Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Dites-moi, en quoi ça vous regarde dans votre besoin de tous les jours pour que Dieu vous montre le ciel et les étoiles qu'il a créées? Si nous pensons que toute notre relation avec Dieu est liée à mon besoin immédiat, je sens un besoin, là, il faut que Dieu... Non! Placez votre relation avec Dieu dans le contexte du désir du Père. Qu'est-ce que Dieu veut partager avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer aujourd'hui? Allez au-delà! Au-delà de l'utilitaire. Et quand on a une culture d'action de grâce, Dieu nous amène au-delà. N'est-ce pas? Il va tout en... Dieu va juste vous montrer les étoiles. Il va commencer à vous montrer la beauté des étoiles. Il va commencer à vous montrer la beauté de sa création. Et vous êtes là. Oh! Mais ce chant, parfois, nous ne nous chantons pas bien parce que ça ne nous intéresse pas. Les étoiles, le ciel. Non, moi, je parle de ma nourriture, là. J'ai pas payé mon loyer, on me parle des étoiles, le chant du zéphyr et quoi encore, le tonnerre, les étoiles. Enfin, ça vous fait rire? Donc des fois quand on prend ce chant, les gens vont dire de plus. Quand mon cœur considère, c'est un mensonge. Nos cœurs ne considèrent jamais ces choses. On ne considère que notre nourriture, notre maison, notre voiture, notre mari, présent ou potentiel. Notre cœur ne considère jamais l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Voyez le visage perplexe des choses. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, oh, pff, le clair matin où les ombres du soir. De tout mon cœur, waouh! On devrait se repentir de mensonges. Tous ceux qui ont chanté ces chants pendant des années, qui n'ont jamais pensé aux ombres du soir, qui n'ont qu'en pensé comme il a quelle heure, il faut que je rentre parce qu'il y a des il y a de danger dans le métro. Non, nous sommes faits en l'image de Dieu. Lorsque nous avons une culture d'action de grâce, Dieu nous amène plus loin que nous-mêmes. Il nous montre ses œuvres. Il nous montre sa pensée, ses dessins, des choses qui ne sont même pas palpables, mais qui sont ô combien merveilleuses. Vous me suivez? Et après, quand une considération dans votre vie vous semble si petite. Et pour vous, c'est inévitable que ça se règle. Est-ce que vous me suivez? Le clairvoyant. Nous allons chanter ce chant la semaine prochaine. Je prends note. Vous avez comme devoir de méditer sous les ombres du soir. Lorsque nous remercions Dieu, nous avons la joie. Lorsque nous remercions Dieu, notre engagement à son égard devient ferme. Nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait pour nous sans vouloir le servir, sans vouloir tout lui donner. Moi, je veux croire que nous avons reçu la nature de Dieu. Et donc, quand nous ne montrons aucun empressement pour nous engager à fond pour le Seigneur, je préfère penser que c'est l'ingratitude plutôt que de dire que nous sommes des goujats. Parce que nous avons quand même reçu la vie de Dieu. Et le corollaire naturel de la prise de conscience de la bonté de quelqu'un à notre égard, c'est la volonté de nous donner nous aussi. Vous le voyez dans la vie, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a été vraiment avec vous, il y a quelque chose en vous, vous avez vous aussi envie de bénir la personne. N'est-ce pas? Je veux croire que vous avez envie de bénir la personne. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, il y a un engagement plus profond. Lorsque réellement, nous prenons conscience, quand nous avons une culture de gratitude, nous devenons des gens qui prennent fait et cause pour Dieu. Et dans toutes choses, dans nos conversations partout. Je vous partageais hier la conversation que j'avais avec quelqu'un qui voulait tout de suite commencer encore, à, comme les gens font souvent, à cracher sur la Bible, oui, les versions différentes. Tout de suite, j'ai parlé. Est-ce que vous parlez de la Bible? C'est le livre de mon père. Je n'ai pas à faire semblant de n'avoir rien entendu et, parce que je ne veux pas de problème. Non. Même si ça va me causer des problèmes, il faut dire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Non, il ne faut pas laisser les gens dire des bêtises. Non. Et ça se traduit à tous les niveaux. La chose qui m'a poussée, en dépit de mes réticences, en dépit des mauvaises semences que les gens avaient semées en moi pour me faire peur, la chose qui m'a poussée à vraiment me donner au Seigneur pour le servir, c'est la reconnaissance, la conscience de tout ce qu'il avait fait pour moi. Moi, c'était inévitable. Je dis, mais non. Mais je n'ai pas de vie sans lui. Je n'ai pas de vie. À quoi je me... C'est quoi la chose à laquelle je tiens? Sans lui, je n'aurais pas même ça. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de prendre une décision. Il y a des gens qui sont enfermés dans des asiles. Ils ont quelques moments de lucidité, mais sinon, Moi, je suis là, saine et sauve. Et Dieu me dit, Dieu, mais moi, je pense que ma mère... Dites gratitude. On s'engage pour le Seigneur quand on est reconnaissant. Quand on a une culture de gratitude en tant qu'Église, on est engagé. On sert le Seigneur. Et on le sert avec joie. L'apôtre Paul, il avait dit quelque chose d'absolument formidable. Regardez avec moi. Je ne vous ai plus donné les numéros. Vous notez quand même, nous sommes au numéro 8. Je me suis toujours dit que j'allais faire un enseignement point par point. Mais j'oublie mes points et je continue. Alléluia. Et il avait dit quelque chose de très fort dans 1 Timothée chapitre 1, au verset 17. Et c'est cette pensée que nous devons tous avoir. Il dit, au verset 12 d'abord, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. Je lui rends grâce. » Qui rend grâce à Jésus ce matin? Moi, je lui rends grâce de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Oui, il y a des gens qui fuient le ministère. L'apôtre Paul a dit, je le rends grâce de m'avoir établi dans le ministère. Je vous assure que pendant ce mois, je remerciais Dieu de m'avoir établi dans le ministère. De m'avoir jugé fidèle. En dépit de mes incertitudes, une des choses qui me dérangeait, c'était que je n'étais pas parfaite. J'ai passé longtemps à me torturer sur le fait que mais je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas quelqu'un d'assez bien. Seigneur, tu as besoin de quelqu'un de bien. Tu te rends compte, je vais me tromper, je vais faire des erreurs. Et les gens vont avoir une opinion négative sur toi à cause de moi, mais je ne peux pas. Je lui ai proposé une de mes amies qui était vraiment quelqu'un d'exemplaire. C'est tout regard, Seigneur, elle est bien. Elle est bien, elle a toujours été zélée, elle a toujours... Elle est là, moi... Mais elle, regarde, elle, je l'ai même dit, je t'ai proposé au Seigneur. Elle est facile, elle est... Bon, non, elle est difficile, mais enfin, elle est soumise. Elle est soumise à Dieu. Elle est... Moi, tu me dis ensuite, je dis, mais pourquoi? Elle est... Oh, le Seigneur veut ça. Je dis, wow, just like that. Je t'ai émerveillé, papa. Je dis, wow, c'est pas moi. Tu te rends compte de ce qui va se passer? Les gens vont voir mes deux feux et vont s'énerver contre toi. Apôtre Paul, je remercie Dieu. Donc, servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose que l'on devrait nous supplier de faire. On devrait considérer que c'est un honneur. Quand on est reconnaissant, non, non, Seigneur, mais vraiment, comme tu veux. Tu veux de moi, moi, je suis partant. Je rends grâce à Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant en blasphémateur, en persécuteur, il est reconnaissant parce qu'il n'a pas oublié ce qu'il était. Il n'a pas oublié ce qui lui a donné beaucoup d'humilité dans le service de Dieu. Parfois, les gens servent Dieu ici, croient. Je dis, wow, ça, c'est des gens qui n'ont jamais péché de leur vie, c'est sûr. Jésus, ensuite, eux. Une telle humilité. Il y a des gens ici, quoi, ils parlent, vous êtes là, mais une pomposité. Wow. Et vous regardez, ah! Il y a une expression en anglais. Quand vous avez quelqu'un qui... On dit, there but for the grace of God goes God. Un autre thème, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, ça c'est lui. Enfin, ce n'est pas traduisible. Laissez tomber. Je ne vais même pas essayer. Ah, ça c'est les gens qui se croient numéro 2 après le Seigneur. Il dit, j'étais un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Donc je rends grâce à Dieu. Nous avons obtenu miséricorde. Donc nous rendons grâce à Dieu. Nous leur rendons grâce de nous demander de le servir. Nous ne maugréons pas en traînant des pieds, moi je suis obligé de faire ça. Mais vous êtes rien. Rien. C'est un honneur que vous soyez appelé à faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Mais c'est ton honneur qu'il ait daigné vous regarder, vous, et vous dire, fais quelque chose pour moi. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Il y a même des gens qui ne vous emploieront pas. Parce que vous avez déjà passé des entretiens, on ne vous a pas choisi. Dieu, lui, vous a choisi et vous plaignez. Quand on est reconnaissant, on ne se plaint pas de servir le Seigneur. On dit, mais Seigneur, tu m'as demandé moi. Parce qu'il y a des employeurs qui vont vous regarder, non, on ne veut pas de vous, madame. C'est clair. C'est clair. Vous passez un entretien, ils regardent votre CV. Il y a des endroits, ils ne veulent même pas que vous passiez. Ils voient votre CV. Non, 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 non. Alors, d'autres mots, ils regardent votre CV. D'abord, ils vous posent deux ou trois questions. Et vous savez que vous n'allez plus jamais les revoir. Et Dieu, lui, vous a engagé. Et vous... Ah, que Dieu nous délivre de la bêtise. Quand nous sommes remplis d'actions de grâce, nous sommes comme Paul, moi qui étais un persécuteur, moi qui étais un blasphémateur. Il m'a jugé digne et il m'a établi dans le ministère. Il m'a demandé de le servir. Moi? Moi? Ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je vous assure, ce mois, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Parce que vraiment, il n'y avait que lui pour me choisir. Si vous avez demandé pourquoi Dieu a choisi pasteur, c'est parce que c'est Dieu qui choisit. Heureusement que je ne vous ai pas présenté mon CV. Il n'y a que lui. Et quand les gens vous disent, oui, mais pourquoi on t'a demandé toi de faire ça? Ah, parce que Dieu m'a choisi. Oui, mais moi j'aurais pu... Dieu m'a choisi. Il m'a choisi. Il a regardé. Il t'a vu, mais il m'a choisi. Je plaisante, je plaisante. Alors, autre point, je vais aller très vite. Notez bien, point 9. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons une culture d'action de grâce? Nous devenons généreux. Nous devenons très généreux envers le Seigneur. Nous devenons généreux envers notre Église. Nous cessons de mettre les pièces jaunes dans l'offrande. Nous avons honte de sortir des pièces jaunes de nos poches. Ça ne nous vient même pas à l'idée. Parce que quand nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait, nous avons une culture d'action de grâce, nous avons constamment devant nous les œuvres grandes de Dieu dans nos vies et ce que Dieu a fait de nous dans notre assemblée. Au moment de nous donner l'offrande, nous sortons nos chéquiers et nous faisons des gros chèques. Nous ne sommes pas là à dire, bon, de quoi je n'ai pas besoin cette semaine? Je vais vous donner un exemple dans la parole. Dieu, pasteur, est franche. Oui, je le suis. Je le suis. Demandez à votre voisin si c'est de lui que je parle. Est-ce que c'est toi qui sors les pieds jaunes? C'est quand vous êtes à l'aise à l'église pour sortir des pieds jaunes, c'est la preuve que vous êtes ingrat. Vous êtes dans une église où Dieu vous a béni, il a changé votre vie, il vous a guéri, il vous a restauré. Et vous n'avez pas un élan de cœur pour donner généreusement, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Vous vous sentez à l'aise pour mettre des petites pièces. Et ça ne vous dérange pas. Vous êtes ingrat. Mais on en guérit. Glory to God! On en guérit. Lorsque on est reconnaissant, il y a un élan pour donner. On participe. On veut veiller à ce que tous les biens soient pourvus. Cette histoire dans 1 Chronique, c'est une histoire qui me met au défi constamment. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de David. David voulait construire un temple pour le Seigneur. Et Dieu lui a dit non. Non, tu ne peux pas construire le temple pour moi parce que tes mains sont remplies de sang. Et moi, à sa place, je lui ai dit, Seigneur, qui m'a envoyé au combat? Et qui m'a oué comme roi à une période si turbulente? J'étais censée faire quoi au fait? Rester là, ne rien faire et les laisser envahir ton peuple? Tu m'aurais jugé pour insoumission comme tu l'as fait pour Saül. Et maintenant, je ne peux pas construire le temple. Mais David a compris, il a obéi. Mais vous savez ce qui est formidable? Ce n'est pas simplement le fait qu'il ait obéi, c'est ce qu'il a fait après. C'est qu'il a pourvu pour la maison de Dieu. Il n'a pas dit, ok, tu veux Salomon, Salomon s'en occupera. Non, il a pourvu. Il a pourvu de la trésorerie royale. Et il est allé plus loin. Il a pourvu de ses biens personnels. Si vous ne pouvez pas pourvoir pour l'œuvre de Dieu, pour votre église locale, de façon généreuse, vous êtes ingrat. C'est la vérité. Une des premières choses qui nous arrive quand on reconnaît ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est qu'on est généreux. On veut participer, on veut pouvoir. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ma vie, dans cette église. Je ne veux pas être spectateur qui vient applaudir et dès qu'il y a quelque chose, oups. Et il y a des chrétiens qui disent, les pasteurs veulent notre argent. Bien sûr qu'on veut votre argent. Non, ce n'est pas nous qui voulons votre argent, c'est Dieu qui veut votre argent. Parce que là où vous mettez votre argent est la preuve de là où est votre cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est la preuve de là où est votre cœur. Là, c'est la période des soldes. Et je mets toujours ça comme exemple. Les gens ne lésinent pas. Les soldes, oh. Que Dieu bénisse Zara. Parce qu'on débarque, les sœurs. Hein? On débarque. Et pendant cette période, vous mettez combien dans le panier? Je vais vous lire cela parce que ça me met au défi personnellement. Et ça fait partie des choses que Dieu a travaillé dans ma vie, qui m'a amené vraiment à devenir généreuse, à donner. Et j'étais vraiment bénie une fois, j'ai compris que j'avais commencé à être généreuse. Une fois, quand j'ai mis une offrande, il y a longtemps de cela, j'ai mis une offrande et j'étais partie en voyage. Et le pasteur a attendu mon retour, ils n'ont pas encaissé mon chèque. Parce qu'ils ont dit, elle s'est peut-être trompée de chiffre. Qu'est-ce que ça m'a bénie? Mais aussi, ça m'a attristée. Ça m'a attristée. Ça veut dire que ce n'était pas courant, ce genre de générosité. Ce n'était pas courant. Ils n'avaient pas l'habitude de recevoir des chèques comme ça. Et je me dis, mais tous ces gens dans cette église, ils font quoi avec leur argent? Ils ne sont pas fauchés. Ils n'en ont pas l'air. Ils ne sont pas fauchés, je le connais. Donc, en fait, ils ne donnent jamais des montants comme ça, qui n'étaient pas énormes en réalité. Hein? Ça m'a fait plaisir, mais ça m'a aussi attristé. Et donc, nous sommes tous là, nous sommes bénis, nous recevons, et les gens n'ont pas l'habitude d'être généreux envers le Seigneur. David, dans ce passage, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il dit. Alors, 1 Chronique chapitre 9. Il dit au verset 1, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. » Et l'ouvrage est considérable. Dites « l'ouvrage est considérable ». Ce que nous devons faire pour le Seigneur dans notre génération est considérable. Et demandera que des gens qui ont une culture d'action de grâce décident d'investir, d'être généreux et de donner, parce que l'ouvrage est considérable. L'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Méfiez-vous lorsqu'un serviteur de Dieu vous dit de participer à construire sa maison à lui. Maintenant, si Dieu vous met à cœur d'acheter une maison pour un serviteur de Dieu parce que vous avez les moyens, ne vous gênez pas. Mais si la personne vous met comme devoir ou comme « faut prouver ton amour pour le Seigneur en construisant ma maison », ou méfiez-vous. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, chaque enfant de Dieu doit être participant. Et vous ne pouvez pas être trop généreux. Ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Je vous assure. Parce que ce n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Au verset 2, j'ai mis toutes mes forces, toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. Pour ce qui doit être de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs. Wouh! Toutes sortes de pierres précieuses. Les gens, leurs pierres précieuses sont dans un coffre. Ils n'en sortent jamais. Et après, quand ils meurent, leurs enfants les partagent. Mais ce qui est frappant ici, c'est de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Est-ce que vous êtes attaché à la maison de votre Dieu? Est-ce que vous êtes attaché à votre église? Je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. En d'autres termes, je donne ce qui est à moi personnellement. Lorsque nous avons une culture de reconnaissance, nous sommes généreux. Et nous faisons des offrandes volontaires au verset 6. Lisez aussi le verset 14. Au verset 14, il est tellement émerveillé. Il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Qui sommes-nous? Et la personne qui dit qui suis-je, c'est la personne qui est reconnaissante. C'est la personne qui dit, avec tout ce que tu es, tout ce que tu as fait pour moi, qui suis-je? Au lieu de faire, oui, mais moi, je suis obligée de donner. Waouh, qui suis-je pour pouvoir donner? Quel honneur! Quelle grâce! Qui suis-je? Qui suis-je? Demandez à votre voisin. Tu es qui pour que Dieu reçoive quelque chose de ta main? Alléluia. Verset 10, nous honorons les dons de Dieu lorsque nous avons une culture d'action de grâce. Quels sont les dons de Dieu? Ce sont les dons spécifiques qui ont été déposés en nous. Paul a écrit à Timothée en lui demandant de ne pas négliger le don qui était en lui. Vous ne négligez pas votre don. Oui, je suis chanteuse, mais je ne vais pas chanter à l'église, je vais chanter au cabaret, parce que ça paye mieux. Négligez pas le don. Négligez pas le don. Quel est le don? Le don que Dieu nous a donné, c'est un libre accès à lui. Jésus nous a donné libre accès au Père. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ces choses, nous ne négligeons pas ce libre accès. Nous y allons tous les jours. Nous avons libre accès à Dieu. Chaque jour, je peux dire Jésus et Jésus m'entend. Je ne néglige pas. Je ne néglige pas non plus la parole de Dieu. Une culture d'action de grâce veut dire que je suis un témoin puissant pour le Seigneur, parce que Dieu a réussi à me transformer. Lorsque j'ai une culture d'action de grâce, Jésus a dit quelque chose de très fort, c'est que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Toutes ces choses que nous avons évoquées juste là, que Dieu travaille en nous, finissent par sortir de ma bouche. Je finis par parler comme Dieu parle. Je finis par dire ce que Dieu dit. Moi, je suis rempli de foi, donc je ne parle que la foi. Je ne parle que l'encouragement. Je ne parle que la victoire. Je ne parle que la joie. Quand mon cœur est rempli d'actions de grâce et que je suis un adorateur, tout ce qui sort de moi, je t'adore, Seigneur. Et je suis en train de définir ma vie avec les choses que je dis. Une culture d'action de grâce, une culture de gratitude, fait de nous une église qui est remplie de la présence de Dieu. Est-ce que nous voulons la présence de Dieu? Dieu vient où il est apprécié. Non seulement nos louanges à l'église, mais dans nos vies tous les jours, Dieu vient là où il est apprécié. Parce que nous avons une culture d'action de grâce, nos réunions sont puissantes. Il y a un esprit de coopération. Il y a l'harmonie, il y a l'amour. Il y a l'engagement. Nous devenons une église contagieuse. Nous devenons des individus contagieux. Nous devenons des chrétiens contagieux. Qui veut être un chrétien contagieux? Que les gens me voient et qu'ils aient envie de ce que j'ai. Quand vous êtes rempli d'actions de grâce, là, cette conscience de la grâce de Dieu fait en sorte que le parfum du ciel est sur votre vie. Les gens ne savent pas pourquoi, mais ils aiment être avec vous. C'est une vie merveilleuse. C'est une vie merveilleuse. Est-ce que nous voulons à Bahas avoir une culture d'action de grâce? Glory to God. Nous sommes des témoins puissants, des amoureux de la parole de Dieu, des gens qui non seulement écoutent, mais qui mettent en application. Je veux mettre en application. Je vais vous mettre au défi d'aller aussi loin que c'est possible en Dieu pour un être humain. Je dis souvent cela, Seigneur, Seigneur, je veux aller aussi loin que possible avec toi. Je veux t'aimer autant que c'est possible pour un être humain de t'aimer. Je veux te faire plaisir autant que c'est possible pour un être humain de te faire plaisir. Je veux t'obéir autant que c'est possible pour un être humain de t'obéir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pas je veux t'aimer suffisamment pour être béni, mais je veux t'aimer avec le maximum d'amour qu'un être humain peut avoir pour toi. Et Dieu répond à ce genre de choses. Il déverse. Remercions le Seigneur pour sa parole. Il déverse. Action de grâce. Une culture d'action de grâce. Thank you, Jesus. Une culture d'action de grâce. 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 Lorsque je suis rempli d'action de grâce, je deviens un véritable soldat pour Jésus. La prise de conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour moi, m'amène à tout lui donner. Lorsque l'apôtre Paul demande à Timothée de souffrir avec lui comme un bon soldat de Christ Jésus, il est en train de lui dire, donne tout à Jésus et accepte tout ce qui vient avec Jésus. Tu n'es pas avec moi quand les choses sont simples et faciles. Tu n'es pas avec moi quand il n'y a pas de difficultés. Tu es avec moi en permanence parce que tu t'es engagé pour Jésus. C'est ce que Dieu nous demande en tant qu'Église. Et quand nous avons une culture d'action de grâce, nous n'avons aucun mal à être des soldats. Parce que nous sommes engagés avec le Seigneur. De façon définitive. De façon
définitive.
De façon
définitive.
Nous cessons d'être des chasseurs de bénédictions et des chasseurs de nouveautés. Et quand Dieu trouve des gens comme ça, les gens qui le prennent au sérieux, lui aussi, il les prend au sérieux. Il les prend au sérieux. Et je veux nous demander ce matin, alors que nous terminons ce culte d'action de grâce, et après avoir vu tous ces différents éléments, les bienfaits d'une culture d'action de grâce, et alors que nous commençons, nous démarrons dans cette église, une culture d'action de grâce, je veux inviter chacun de nous ce matin à dire, Seigneur, j'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup reçu dans ma vie, j'ai beaucoup reçu dans ton église. Je tourne le dos à tout ce qui est passé. Tout ce que j'ai constaté comme faiblesse, comme ingratitude, comme défaut, comme défaillance, tout cela est fini. Je veux tout ce qu'il y a dans ton cœur pour moi. Et je veux être partie intégrante de tout ce qu'il y a dans ton cœur pour ton Église. Oh, Jesus. Et je veux que tu fasses naître en moi une nouvelle conscience de ce que tu as pour ma vie et ce que tu as pour mon Église. Je vais vous inviter à faire cette prière maintenant. Que chacun élève sa voix vers le Seigneur. Oh, Jesus, this is wonderful. Et il m'a appelé. Il m'a appelé en soldat. Dites à quelqu'un, il m'a appelé en soldat.
Il m'a appelé en soldat.
Non, dites-le avec conviction.
Il m'a appelé en soldat.
Il m'a jugé fidèle.
Il m'a jugé fidèle.
Et il m'a dit de porter cela.
Il m'a dit de porter cela.
De dire je suis un soldat.
De dire je suis un soldat.
Il n'a pas dit tout le monde à la barre sauf moi.
Il m'a demandé moi aussi.
Et aujourd'hui, je me lève.
Je
dis merci Seigneur.
Je
dis me voici.
Reconnaissant.
Prêt à te servir.
Reconnaissant.
Prêt à me tenir pour toi.
Dans ma génération.
Aujourd'hui.
Je traverse une ligne.
Je laisse derrière moi,
ce que j'étais.
Je prends aujourd'hui
tout ce qui est sur le cœur de Dieu.
Me concernant.
Je suis un soldat.
Conscient
et reconnaissant
de ce que je suis en Christ.
De ce que j'ai reçu de Dieu.
Et ce pas que je fais aujourd'hui,
c'est un pas de foi.
Et je le fais dans la joie.
Je me mets à la disposition du Seigneur.
Celui qui m'a tout donné.
Je lui donne tout.
Je déclare aujourd'hui
que je suis prêt.
À souffrir.
Si besoin.
Comme un bon soldat de Christ.
À endurer.
La difficulté.
À vaincre.
La difficulté.
À vaincre.
Les inconvénients.
Pour
la cause de Christ.
Je ne vais jamais reculer.
Je ne vais jamais oublier
ce qu'il a fait pour moi.
Je vais toujours me rappeler
que lorsque Israël a oublié,
Israël a reculé.
Je ne vais jamais reculer.
Parce que je ne vais jamais oublier.
Je m'engage aujourd'hui
dans mon église locale
à ce que Dieu veut.
Que Jésus règne
dans ma vie.
Jésus règne
à Abba House.
Et moi,
avec toute mon église,
nous ferons la volonté de Dieu.
Je m'engage
comme un soldat
de l'Évangile,
un soldat
de Jésus-Christ,
à aller là où il veut,
à faire ce qu'il veut,
à gagner ma génération
pour Jésus.
Pour Jésus,
à servir Jésus,
à honorer Jésus,
à contribuer,
à bâtir l'Église,
à commencer par mon Église locale.
Tout ce que Dieu a fait à Abba House,
j'en suis reconnaissant.
Et je m'engage
pour
dire Seigneur,
ce que tu veux faire maintenant.
À Abba House,
tu peux compter sur moi.
Parce que je suis reconnaissant.
Et je te remercie
de ce que tu déverses en moi.
L'abondance
de dons,
de capacités,
de joie,
de paix.
Fais de moi, Seigneur,
un pilier
dans cette église.
Au nom de Jésus.
Alléluia!
Alléluia!
Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons pas fait que chanter et danser. Nous avons chanté et dansé, mais tu as interpellé nos cœurs. Et tu as redirigé nos vies. Et tu as fait quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Et beaucoup d'entre nous, c'est au fur et à mesure des jours et des semaines que nous allons prendre conscience de tous les changements qui ont été opérés en nous. Mais nous te sommes, nous te sommes infiniment reconnaissants.
Amen.
Wow, Jesus.
Amen.
Wouh! Ah, wow. Goodness of God.